Avec cette présentation de M. Adjaouinou, nous entrons tout droit dans la deuxième partie de cette conférence de presse, la partie questions-réponses. Je vais vous demander une fois de plus d'éteindre vos portables ou de les mettre sous silence afin que nous puissions, dans un climat apaisé et serein, faire cette séance donc de questions-réponses. Je vois une main ici. Peut-être qu'on peut commencer par la dame. Il y a beaucoup de mains sur la droite. Nous allons prendre trois questions ici et puis ensuite on va aller à Goma. Présentez-vous et puis posez une question, s'il vous plaît.
Oui, je suis Myriam Iraghi du journal Le Phare. Ma question s'adresse directement à M. Dominique. Pouvez-vous nous préciser quelles sont les, de manière explicite, les différentes violations de droits électoraux dont il est question?
Alors, là, une petite synthèse. Quels sont les droits électoraux qui ont été effectivement violés?
Nous travaillons sur plusieurs axes. Les domaines dans lesquels nous observons ces incidents, il y a le débat politique libre et constructif, est-ce qu'il y a ça? La liberté d'opinion et d'expression, l'accès équitable aux médias, y compris aux médias d'État, la liberté d'association, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, donc des hommes politiques, des acteurs. Est-ce que les acteurs politiques ont la possibilité, la capacité de se mouvoir librement? Est-ce que leur sécurité n'est pas atteinte par le voilà. Mais ce qui revient le plus, c'est la liberté d'expression. Nous avons noté dans cette période, disons de janvier à août, une quarantaine d'incidents qui ont été enregistrés. Et cela dénote du rétrécissement de l'espace politique, plus chaque fois que, en tout cas, lorsque nous nous avançons, comme j'ai dit tout à l'heure, vers la tenue des élections.
Voilà. Deuxième question, nous restons peut-être. Il y a une autre dame? Ok, il y a une autre dame apparemment.
Laetitia Massella pour le compte de la RTNT2. Monsieur Charles, juste une petite question. Est-ce qu'on peut connaître le nom du remplaçant de Martin Kobler? Merci.
Vous la connaissez déjà?
Non. Je demande, c'est à vous. Vous me posez, moi je vous pose.
Il semble qu'il y a des rumeurs, hein, une fois de plus, ou des informations que nous ne pouvons pas à l'heure instant confirmer. Notre seule source d'information, c'est le bureau de Ban Ki-moon qui, lui, annonce officiellement la nomination du représentant spécial, de son représentant spécial en RDC, qui remplacera donc M. Martin Kobler. Je pense que avec un peu de patience, on aura du bureau donc de Ban Ki-moon le nom de cette personne très bientôt. Voilà ce que nous pouvons dire. Peut-être nous allons passer sur la gauche ici. Vous avez un micro? Oui, merci bien. On reste là à côté. Oui, allez-y.
Merci. Habibou Bangré pour l'agence France Presse. Deux questions, une pour Martin Kodjo. Je voulais savoir s'il y avait un bilan des pertes niveau rebelle, éventuellement casque bleu et civil, de l'attaque qui a été menée contre le NDC lundi soir. Et pour Monsieur Dominique, je voulais savoir si vous aviez en fait, une réaction concernant le rapport de Human Rights Watch qui explique que le 15 septembre, le rassemblement de l'opposition a été attaqué, enfin, a été fomenté par les forces de sécurité et le parti au pouvoir. Est-ce que vous avez constaté la même chose?
Direction Goma d'abord. Monsieur le lieutenant-colonel Kodjo Amouzou, est-ce que vous avez entendu la question? Est-ce qu'il y a un bilan de l'opération menée lundi contre un certain nombre de groupes armés dans la zone et le territoire de Walikale, je crois?
Je disais tantôt que le bilan fait état de pertes dans le rang des groupes armés. Et je vous confirme qu'actuellement, il y a une mission composée de représentants des autorités provinciaux et de la MONUSCO sur le terrain pour pouvoir évaluer, éclaircir et sortir la vérité. Merci.
D'accord, donc on aura un bilan exhaustif peut-être dans les heures qui viennent, dans la journée, et on pourra vous le transmettre. Est-ce que nous avons une réaction, Monsieur Dominique Adjaouinou, sur ce rapport de Human Rights Watch? Il s'agit bien d'un rapport de Human Rights Watch que nous avons bien sûr lu comme tout le monde ici, hein. Et donc, je ne sais pas si à votre niveau, vous suivez un peu plus ces questions électorales.
Oui, tu viens de le dire, nous avons également pris connaissance de ce rapport. Et comme d'habitude, nous recherchons au niveau de toutes les sources, nous nous documentons et nous vérifions les informations que nous avons recueillies, que ce soit du terrain, que ce soit du secteur des droits de l'homme ou de la police. Nous essayons de les analyser, de les valider avant de les intégrer dans notre registre des incidents électoraux du mois. Et par rapport à la deuxième question, oui, nous avons également, dans notre rapport du mois de septembre, retenu que le meeting qui a été organisé par la dynamique de l'opposition a été terminé par une violence, qu'il y a eu... selon les informations que nous avons reçues, il y a eu un mort et puis des blessés. Voilà ce que nous avons reçu.
Direction Goma pour 3 questions, s'il vous plaît. Et je rappelle qu'il s'agit d'une conférence de presse des Nations Unies. Vous avez eu tout à l'heure un bon briefing de Madame Florence Marshall, qui avait partagé donc avec nous pas mal d'informations intéressantes sur le PNUD et d'autres agences. Goma, 3 questions, s'il vous plaît.
Merci. Je m'appelle Cosmas. Oui, c'est Daniel Mouchombero pour Vision Chala. Ma question s'adresse à M. Charles Bambara. Certains villages du nord de Pinga, dans le Walikale, ont été bombardés par les hélicoptères de la MONUSCO. Cependant, certains paysans ont trouvé la mort. Est-ce que nous pouvons penser à de nouvelles stratégies dans l'objectif d'éviter d'autres inconvénients qui puissent surgir dans la zone? Merci.
Je crois que si vous avez suivi le briefing militaire tout à l'heure, le lieutenant-colonel Amouzou Martin Kodjo a spécifié, a donné cette information de façon très claire sur cette intervention qui a eu lieu effectivement dans le territoire de Walikale. Il faut dire qu'un certain nombre de groupes armés sévissent depuis plusieurs longues semaines, longs mois même je dirais, dans ces villages. Plusieurs villages ont été brûlés, pillés, saccagés. Et rappelez-vous, et je voudrais vous rappeler en tout cas que notre mission première est de protéger les populations. Donc nous avons un mandat de protection des populations, donc nous ne pouvons pas ignorer ce mandat. Et nous avons des règles d'engagement très claires dans ce genre de situation qui nous ont donc permis, qui a permis à la hiérarchie militaire de la MONUSCO de décider qu'il fallait stopper donc les exactions contre les populations dans le territoire de Walikale. L'opération a été menée, et comme l'a dit tout à l'heure, je le rappelle, le lieutenant-colonel Amouzou, une mission d'évaluation sur place est en train d'évaluer la situation avec les autorités provinciales pour voir un peu l'impact, les conséquences de cette opération. Mais c'est des opérations ciblées sur les groupes armés qui exercent ou qui sévissent dans la région. Et je crois que c'est les comptes rendus détaillés militaires vous sera fait dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, par le lieutenant-colonel Amouzou lui-même. Nous restons toujours donc à Goma pour une autre question.
Merci. Une dame à gauche.
Oui, merci. C'est Gina Moulouma pour le compte de Citizen. Ma question, je l'adresse à M. Bambara. En début de cette semaine, certaines allégations étaient imputées à Martin Kobler, allégations selon lesquelles il aurait réclamé via un soi-disant compte Twitter des primes de risque pour son travail abattu en RDC. Je voudrais savoir s'il y a possibilité de lever l'équivoque sur ces allégations, mais aussi de savoir si ce compte Twitter-là appartient vraiment à M. Kobler. Merci.
Aucunement. Je ne pense pas que le compte Twitter était un compte de Monsieur Kobler. Le compte Twitter de Monsieur Kobler est très bien connu. Si vous ne le connaissez pas, on peut... c'est arrobase SRJ, et c'est très clair. Martin SRJ, c'est son compte Twitter. Les autres ne sont, sont des faux comptes comme ça arrive souvent dans le cadre des médias sociaux. L'information donnée, surtout d'ailleurs, à Goma et dans la région de la province du Nord Kivu est totalement erronée. Il faut dire, et nous avons communiqué d'ailleurs cela sur Radio Kivu One, nous avons donné une interview pour clarifier la situation. Il faut dire que chaque trois mois, la MONUSCO fait une évaluation donc de la situation sécuritaire dans l'est du pays pour voir si les Nations Unies en tant qu'institution internationale doit continuer à donner des primes de risque aux agents travaillant dans l'est du pays. Et donc ce rapport est fait sur place, envoyé à Monsieur Martin Kobler qui signe donc ce rapport après vérification bien sûr et qui l'envoie au siège à New York pour que le siège donc puisse autoriser le paiement des risques aux travailleurs, une fois de plus, de la MONUSCO qui travaillent dans l'est du pays. C'est vrai que nous avons entendu faussement dire que M. Martin Kobler demandait des risques, des indemnités de risque avant de quitter la mission. Cela est complètement erroné. Il n'a jamais été question de Martin Kobler lui-même, parce que son bureau est ici à Kinshasa, même s'il se rend souvent à Goma. Il s'agissait, bien entendu, et je rappelle, c'est une routine, tous les trois mois, ce rapport est fait pour renouveler les primes de risque pour l'ensemble des travailleurs onusiens, donc à l'est du pays. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette question. Je crois que cela clarifie définitivement ce débat. Troisième question à Goma.
Toujours à gauche. Oui.
Ok. Alors, oui, je suis Baron Koï, je suis journaliste indépendant et je publie dans congoreport.com. Ma question revient sur Human Rights Watch, qui a demandé dans son rapport à la MONUSCO de prévenir les nouvelles attaques, d'envoyer la police et la MONUSCO sur terrain pour prévenir ces attaques. Alors, je voulais savoir si la MONUSCO pourra relever ces défis. Aussi pourra de temps en temps jusqu'à la durée des campagnes temps électorales envoyer la police sur le terrain lors des manifestations pour protéger les manifestants.
Merci. Il faut dire que dans la présentation de cette conférence de presse, vous avez vu les informations que j'ai partagées avec vous. Il y a eu une collaboration très étroite entre la police des Nations Unies, UNPOL, et la PNC. Non seulement, c'est vrai, à Kinshasa, mais à travers l'ensemble du pays, PNC et UNPOL se concertent, discutent, font des activités ensemble, etc. Et donc, cela va sans dire que dans le cadre, et d'ailleurs... Plusieurs polices de la PNC ont été formées, comme je l'ai dit aujourd'hui encore, dans le cadre de la police, dans le cadre du maintien de l'ordre en période électorale, pour minimiser justement les incidents électoraux dont a parlé tout à l'heure Monsieur Dominique Adjawinou. Et donc cela va continuer, cela va monter en puissance dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, pour voir cette collaboration se renforcer, être beaucoup plus étroite, être beaucoup plus performante et professionnelle sur le terrain. Je crois que c'est le vœu à la fois de UNPOL, la police des Nations Unies, et de la PNC. D'ailleurs, je ne sais pas si je révèle un secret, peut-être que le général Champion, qui est le chef de la police donc de la MONUSCO, pourrait le confirmer dans les jours qui viennent. Le ministre d'État Bouchab a voulu que la police UNPOL puisse déléguer dans son bureau un officier supérieur de UNPOL qui travaillerait directement en contact avec lui pour justement renforcer la collaboration UNPOL-PNC dans le cadre de bien de domaines dont justement cette période électorale, etc. etc. Donc vous voyez que cette collaboration est vieille, cette collaboration se renforce et va se renforcer dans les semaines qui viennent, comme je l'ai dit, et je pense que cela va plutôt dans le bon sens. Nous revenons ici à Kinshasa pour prendre une, deux questions. Il y a beaucoup de mains aujourd'hui. Hein. D'habitude, on n'a pas autant de mains. Bon, on va rester... Les gens du fond disent souvent qu'ils n'ont pas... On va faire le fond. On va faire le fond. Ne vous en faites pas. Allez-y.
C'est Stanislas Ntamboué pour le potentiel africactualité.com. Ma question, je l'adresse au commandant... qui
lieutenant-colonel Amouzou.
Oui. Mon colonel, la semaine passée, le général Bayo a, devant les étudiants, relevé la difficulté qu'il y a à engager les opérations militaires d'une manière unilatérale. Il a aussi noté la nécessité de coordonner les actions militaires avec les FARDC. Aujourd'hui, certains médias ont rapporté par rapport au raid de la MONUSCO la mort de certains civils. Je voudrais un peu savoir, dans le cadre de ces raids-là, est-ce que la MONUSCO a opéré d'une manière unilatérale, j'allais dire, ou avec les FARDC? Si oui, si pour les autres opérations, la MONUSCO est en mesure d'opérer seule et d'une manière unilatérale, mais pourquoi pas, en ce qui concerne la traque contre les FDLR, la MONUSCO ne peut pas aussi entreprendre des opérations d'une manière unilatérale. Merci.
Lieutenant-colonel Amouzou, je pourrais compléter par la suite. Vous pouvez peut-être aller.
Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question. L'opération contre le FDR, il faut du dialogue stratégique. Et le général avait dit la dernière fois. Quatrièmement, il y a cours du dialogue stratégique et c'est à la fin de ce dialogue que la MONUSCO pourrait ensemble lutter contre le FDR, ensemble avec les FARDC, lutter contre le FDR. Mais à la question de savoir si au cours de l'opération de la MONUSCO qui a failli décider, tout d'abord, je vous dis que la MONUSCO n'a pas conduit des raids. La MONUSCO n'a pas mené des raids. La MONUSCO, dans le cadre de la protection des populations civiles, à la liberté de mouvement et d'accès aux zones entravées où opèrent les différents groupes armés, conformément à son règle d'engagement. Et je disais tantôt qu'il y a actuellement en cours sur le terrain en Pinga une équipe de variation composée de représentants des autorités provinciales et de la MONUSCO pour évaluer l'action menée par la MONUSCO sur le terrain. Cette mission rencontrera les populations civiles sur le terrain ainsi que les autorités locales de Pinga. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à vos attentes.
Oui, il faut dire que dans ce territoire de Walikale, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu essentiellement des populations de ces deux villages Moussangana, Moussangana, je crois, et Minova dans le territoire de Walikale être vidés de leurs habitants. Pourquoi? Parce que les groupes armés sévissaient terriblement dans ces zones et nous avons vu des destructions massives au niveau de ces villages-là. Je crois qu'il y avait une sorte de légitime défense de cette population qui, ne pouvant pas faire face donc aux exactions qu'elle subissait, donc on fuit leur localité. Et donc, ce faisant, c'est vrai que nous avons été interpellés, comme nous l'avons été souvent d'ailleurs par les plusieurs villages de cette zone-là, qui demandent chaque fois à la MONUSCO d'intervenir sur place. Et nous avons un mandat clair de protection des civils. Nous ne pouvons pas faire fi de ce mandat et les règles d'engagement dans ce genre de situation sont clairement définies. Et c'est pour cela qu'une fois de plus, il y a eu cette opération pour sécuriser une fois de plus ces villages afin de les débarrasser des groupes armés qui évoluent dans cette zone depuis très longtemps. L'opération a été menée, il y a eu une évaluation qui se fait sur le terrain pour voir, j'allais dire, le succès. Ou, la situation à l'heure actuelle, est-ce qu'il faut continuer cette opération de concert avec les FARDC, oui ou non, ou s'il faut, ou si toutes les questions ont été réglées, on va arrêter cette opération donc. Mais l'évaluation nous dira dans la journée même qu'est-ce qu'il en est, afin que l'on puisse savoir s'il faut, comme je dis, temporiser, continuer ou adopter d'autres stratégies. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Mais c'est vrai que dans le cas des FDLR, C'est clair que nous avions fait une programmation conjointe de ces opérations. C'est au moment où nous devions lancer que sur les réserves émises, et qui sont levées d'ailleurs depuis, et il n'y a plus d'objection pour que ces opérations conjointes puissent reprendre. Nous espérons que cela sera fait dans les semaines qui viennent, en tout cas. Ou le plus vite possible pour nous, à la fois. Et donc, après cette programmation conjointe de ces opérations, on souhaitait effectivement entamer ces opérations conjointes. Cela n'a pas été possible, mais dans la mesure où, de prime abord, ces opérations devaient être conjointes, c'était difficile après pour nous de les faire de façon unilatérale. C'est vrai, si vous lisez les différentes résolutions du Conseil de sécurité, nous avons cette possibilité d'engager de façon unilatérale un certain nombre d'opérations. Et si vous demandez, par exemple, au commandant de la force ou à son adjoint sur place, beaucoup d'opérations se font unilatéralement sur le terrain pour juste sécuriser un certain nombre de zones. Hein, parce qu'il y a pas mal de groupes armés qui se déplacent, il y a pas mal de... Mais les opérations d'envergure, idéalement, c'est vrai, nous souhaitons qu'elles se fassent de façon conjointe contre les ADF, par exemple, contre les FNL dans le sud de Kivu, contre les FDLR, contre d'autres groupes armés. Nous essayons donc de mettre plutôt l'accent sur ces opérations conjointes qui ont montré leur efficacité, qui ont montré à souhait leur que ça pouvait être plutôt, j'allais dire, une bonne démarche. Nous restons ici toujours à Kinshasa pour prendre une question. On va venir à vous. Où est le micro? Où est-ce que nous avons le micro ici? Bon, on reste là à côté donc. Bon, il y a beaucoup de mains aujourd'hui. Allez-y.
Merci Rigobert Kabongo pour l'agence Univers Plus Média. Une question aux humanitaires Marshall, Sylvestre ou bien Yvan Edmou. Je voulais avoir...
Voilà quelqu'un qui connaît bien les responsables de communication.
Hein. Les chiffres exacts de réfugiés centrafricains, exacts à l'heure qu'il est, et plus précisément, ils sont à Zongo, Guadolité, et puis leur prise en charge. J'ai entendu Marcel dire que les PAM n'est pas à mesure de leur venir en aide. Est-ce que c'est l'abandon ou bien il n'y a pas de contribution de la part des pays donataires?
Voilà, nous Merci. Avons sur la table notre collègue du HCR, Andreas Kirchhoff, qui va donc répondre à cette question.
Merci. Bon, on essaye de faire notre mieux pour les réfugiés centrafricains, mais effectivement, il faut constater que cette crise n'est pas soutenue dans une mesure suffisante par les pays donateurs. Par titre d'exemple, le HCR, il a reçu 6% de ses besoins financiers pour les réfugiés centrafricains en République démocratique du Congo. Le PAM est dans une situation pareille, avec les risques de devoir diminuer ou arrêter de l'assistance en vivres à partir de fin novembre. Par rapport au nombre de réfugiés centrafricains en République démocratique du Congo, on peut dire que ce qu'on a enregistré, ils sont bien au-delà de 100 000 personnes, avec un afflux assez important suite à la crise dans la capitale Bangui et aussi dans d'autres zones, mais ça surtout en septembre. Ce qui nous inquiète un peu, on a aussi des informations surtout dans la zone de Mogoro, qu'il y a certaines communautés où les réfugiés qui sont avec les communautés locaux sont déjà plus nombreux que les communautés locaux et qu'il y a une certaine concurrence pour, par exemple, en matière de pêche. On essaye de vérifier cela. Mais de toute façon, nous, on essaye de mobiliser les donateurs pour rendre plus de soutien à ces réfugiés en termes de vivre besoins humanitaires, abris, etc. dans les mois prochains. Merci.
Voilà, c'était Andreas Kirchhoff, donc du HCR ici à Kinshasa. Il nous reste 2 minutes avant la fin de la conférence. Je me demande si nous allons pas aller à Goma, hein, parce que sinon ils vont être frustrés. Les collègues sont nombreux là-bas. On va continuer ici après, mais je tiens à aller à Goma d'abord. Goma, une question s'il vous plaît.
c'est ça, une date.
Allez-y.
Moi, c'est Sylvie Mazambi. Je suis là pour le compte des femmes de médias. Ma question s'adresse au colonel, que je suivis avec attention. Il a parlé d'un mot que j'avais perdu, la situation sécuritaire du Nord Kivu reste étendue. Ce que je voulais savoir, est-ce que vous vous rendez compte qu'à Goma, tout au long du mois de septembre, il y a eu plus de 15 civils qui ont été assassinés? Ça, c'est selon le rapport d'une organisation des droits de l'homme, c'est pas dans le sigle. La question est de savoir quels sont les mécanismes qui sont pris en place pour sécuriser la population de Goma, je reste à Goma, sans parler à l'intérieur de la province, où on attend que ça devienne pire pour les sécuriser. Merci.
Merci, madame. Les forces de la MONUSCO n'interviennent pas dans la ville de Goma. Il y a la police, il y a l'UNPOL qui encadre la PNC. Et pour les raisons de banditisme, les forces de la MONUSCO n'interviennent pas. Sauf au cas où ils seraient appelés à renforcer les autres. Nous ne traitons pas des questions de banditisme. Nous sommes là pour la neutralisation de ces groupes armés qui fait déplacer les populations civiles. C'est un groupe armé qui brûle les maisons, qui viole et qui tue beaucoup de citoyens congolais. Et pour mémoire, la MONUSCO est sollicitée partout, des Lubero jusqu'au sud de Walikale, jusqu'à présent. Les populations locales appellent la MONUSCO pour pouvoir les protéger.
Voilà, merci au lieutenant-colonel Lamouzou. Nous restons peut-être à Goma. Nous savons que Radio Capi a continué son bulletin d'information, mais nous allons ici continuer. Nous avons pas mal de doigts encore ici à Kinshasa et certainement à Goma. Goma, nous vous cédons l'antenne pour encore une question.
Oui, à droite.
Merci, c'est Vivien Zavarinda pour les comptes ici d'Emory Phare. Alors la question, c'est par rapport au nouveau secrétaire le nouveau patron affecté des Nations Unies, de la MONUSCO en RDC. Il s'agit de Martin Kobler, qui sera, selon une chaîne internationale, remplacé par les Nigériens Mamadou Sidi Bé. Peut-on savoir, en fait, à quand, selon vous, les nouveaux patrons peuvent commencer ces missions en RDC?
Mais j'espère que vous étiez là quand j'ai répondu à cette question, non? Nous attendons, nous, notre source d'information doit être uniquement le bureau de Ban Ki-moon à New York, pas les sources de Radio France Internationale ou d'autres représentations diplomatiques. Goma, une autre question peut-être?
Oui.
Moi, c'est Saïdi Abassi pour Motane FM. Je pose la question à Florence Marchal. Il n'y a pas longtemps, vous avez peint un tableau sombre par rapport à
la S'il vous plaît, il y a trop de bruit. Hein, oui, s'il vous plaît, il y a un peu trop de bruit. Donc, allez-y.
Oui. Il n'y a pas longtemps que vous avez peint un tableau sombre par rapport à l'instruction de la femme qui était le levier de développement. Et l'équipe de pays ont dit que deux tiers de femmes ne savaient pas lire et écrire par rapport aux adultes analphabètes. Maintenant, nous sommes en train d'émigrer des OMD au DDD. Donc, comment tout ce que cela sera possible, d'autant plus que l'approche IDH du CNID qui préconise beaucoup plus la scolarisation et l'alphabétisation, où la femme, elle est presque exclue. Comment est-ce que nous allons faire le développement durable?
Oui, bonjour. Je vous remercie. Justement, la scolarisation universelle est un des domaines dans lesquels on a enregistré des progrès. Le taux brut et net de scolarisation est passé à 88,4% en 2012, ce qui fait que c'est quasiment atteint. Le taux d'alphabétisation, par exemple, de la tranche d'âge 15-24 ans, est passé à 48,6% en 90 et passé à plus de 80% en 2014. Donc c'est vraiment des domaines dans lesquels des progrès ont été atteints. Idem pour la parité hommes-femmes dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire, ainsi que pour l'alphabétisation. Donc ce sont des domaines dans lesquels des progrès ont été enregistrés, mais évidemment, comme vous l'avez dit, les objectifs de développement durable vont prendre le relais et vont continuer à couvrir cette recherche pour que tout le monde ait accès à l'éducation de façon égale. Ces objectifs de développement durable seront, je le vous rappelle, intégrés, serviront de base au programme que le gouvernement de la République du Congo, au programme de développement qu'elle est en train d'élaborer et pour lequel elle recevra le soutien des agences du système des Nations Unies.
Kinshasa, trois dernières questions ici. On commence au bout de la table ici. On a un micro. Bon, on commence par le fond alors. Comme ça, on va... Allez-y. Oui. Une question, hein, s'il vous plaît, parce qu'on a...
J'en ai toujours une, Monsieur Charles Bambara.
Avec votre permission, allez-y.
Anthony Chambaraga, Télévision. Ma question, je la pose à Monsieur Dominique. Vous travaillez avec la CENI, c'est-à-dire vous travaillez avec le gouvernement de la RDC. Dans votre intervention, vous avez dit... plus on approche des élections, plus il y a ces tensions. Vous-même, vous avez des doutes. Vous ne savez pas si ces élections seront organisées. J'aimerais savoir, vous qui travaillez avec la CENI et le gouvernement, est-ce que vous notez dans le chef du gouvernement congolais la volonté d'organiser des élections ou je ne sais pas. Merci.
Bon, la CENI est indépendante d'abord du gouvernement. Hein. Je sais, mais la CENI est vraiment indépendante du gouvernement. Voilà.
Oui, comme l'a dit Charles, la CENI est effectivement indépendante. Et le travail que nous faisons, l'appui que nous apportons, encore maintenant plus que par le passé, c'est un apport de bons offices afin que les conditions soient créées et qu'il y ait un environnement susceptible de permettre la tenue d'élections libres, transparente et crédible et surtout apaisée. C'est le travail que nous faisons le plus maintenant. Nous ne sommes plus dans un appui technique renforcé, il est vrai. Nous avons un mandat d'appui logistique et nous nous préparons pour cela. La CENI est assez mature. Nous avons été très présents en 2006, un peu moins en 2011. Et il n'y a pas d'œuvre à faire si vous ne faites rien pour que, lorsque vous allez partir, cela puisse être mieux et bien fait, sans vous. Donc, il y a une sorte de... On fait un progrès de détachement par rapport à l'appui, à l'assistance directe. Aujourd'hui, si j'ai un peu de réserve, c'est comme tout Congolais, toute personne de la communauté internationale ici, nous suivons l'actualité, nous suivons comment le calendrier est en train d'être exécuté, et je pense que là où on en est, tout le monde lit les difficultés qu'il y a au niveau de la mise en œuvre de ce calendrier. Peut-on rattraper les retards accumulés? Il appartient à la CENI et aux autorités nationales de trouver la façon de faire pour qu'il y ait un calendrier qui, comme nous l'avons toujours dit, un calendrier plus facile à être exécuté. Voilà.
Bon, voilà. Et ensuite, on progresse vers ici, hein, plutôt. Allez-y.
Bon, merci, c'est Symphorien Katumba, l'explorateur. J'ai une préoccupation, Madame Florence. Quand vous dites d'une diminution du taux de mortalité des enfants en RDC, vous vous référez sur quel type de statistiques? Aussi longtemps, les tableaux de la RDC présentent une zone d'ombre. Je vous remercie.
L'explorateur veut explorer cette question.
Alors, comme je l'ai indiqué lors de l'annonce de la publication de ce rapport, vous allez recevoir à la fin de cette conférence de presse un communiqué dans lequel tout sera expliqué. Les données viennent, il y a plusieurs enquêtes qui sont faites par les enquêtes 1, 2, 3. Par exemple, je pense aux enquêtes de l'UNICEF. D'autres enquêtes ont été faites. Donc, pour la mortalité des enfants, pour répondre plus précisément à votre question, on est passé de 213, un taux de mortalité de 213 pour 1000 pour les enfants de moins de 5 ans en 2001 à 104 pour 1000 en 2013. Donc voilà, en 13 ans, en 12 ans, j'y arriverai, on a baissé quand même quasiment de moitié. Vous aurez toutes les informations vraiment dans le communiqué qui vous sera remis à la fin de cette conférence. Donc les données rassemblées par la Banque mondiale, rassemblées par le gouvernement de la RDC, rassemblé par l'UNICEF, rassemblé un petit peu par tout le monde, en attendant qu'il y ait le grand recensement auquel tout le monde aspire dans les prochains mois ou prochaines années.
Oui, allez-y, une dernière question peut-être. Allez-y.
Nénèse Fomba du journal Opinion. Monsieur Dominique, quelle analyse faites-vous de lorsque le chef de l'État dit à Kinga Kati, je cite, je suis prêt à toutes les élections pendant que lui-même n'est pas concerné.
Vous avez compris la question, j'espère.
Très bien.
Il y a eu cette déclaration, apparemment. Allez-y. Oui.
Quelle analyse faites-vous de lorsque le chef de l'État dit à Kinga Kati, je cite, je suis prêt à toutes les élections pendant que lui-même n'est pas concerné.
Bon, je crois que cette question est difficile à analyser. Hein. Non, la formulation n'appelle pas une réponse directe. Parce qu'en fait, d'une part, elle cite le chef de l'État. D'autre part, elle l'analyse elle-même. Elle dit il n'est pas concerné. Qui vous dit qu'il n'est pas concerné? Non, qui vous dit qu'il n'est pas concerné? Voilà, non, ça c'est déjà un début d'analyse. Et c'est pour cela que je dis, il y a la question, il y a un début d'analyse et ils veulent une analyse. Alors.
Je constate comme vous...
S'il vous plaît.
Je constate comme vous que le chef de l'État a fait une déclaration. Et je comprends cette déclaration comme une manifestation de la volonté que les élections se tiennent. Maintenant, ça ne veut pas dire que les élections vont se tenir à telle date ou à telle autre date. Et ce qui nous préoccupe le plus, vous et nous, je pense, hein, nous surtout, c'est que ces élections-là puissent se tenir conformément aux règles et à la périodicité normale.
Voilà, il y a des jours où on aimerait que cette conférence de presse dure 2 heures, mais malheureusement, c'est 45 minutes, on a même débordé. Merci d'avoir été en notre compagnie et très bonne semaine à tous.